Anatole France, Abeilles, chapitre 1er, qui traite de la figure de la terre et sert d'introduction. La mer recouvre aujourd'hui le sol où fut le duché des Clarides. Nul vestige de la ville et du château, mais on dit qu'à une lieue au large, on voit par les temps calmes d'énormes troncs d'arbres debout au fond de l'eau. Un endroit de rivage qui sert de poste aux douaniers se nomme encore en ce temps-ci l'échoppe du tailleur. Il est extrêmement probable que ce nom est un souvenir d'un certain maître Jean dont il est parlé dans notre récit. La mer, qui gagne tous les ans de ce côté, recouvrira bientôt ce lieu si singulièrement nommé. De tels changements sont dans la nature des choses. Les montagnes s'affaissent dans le cours des âges, le fond de la mer se soulève au contraire et porte jusqu'à la région des nuées et des glaces, les coquillages et les madrépores. Rien ne dure. La figure des terres et des mers change sans cesse. Seul le souvenir des âmes et des formes traverse les âges et nous rend présent ce qui n'était plus depuis longtemps. En vous parlant des Clarides, c'est vers un passé très ancien que je veux vous ramener. Je commence. La comtesse de Blanchelande, ayant mis sur ses cheveux d'or un chaperon noir brodé de perles... Non, mais avant d'aller plus loin, je supplie les personnes graves de ne point me lire. Ceci n'est pas écrit pour elles. Ceci n'est point écrit pour les âmes raisonnables qui méprisent les bagatelles et veulent qu'on les instruise toujours. Je n'ose offrir cette histoire qu'aux gens qui veulent bien qu'on les amuse et dont l'esprit est jeune et joue parfois. Ceux à qui suffisent des amusements pleins d'innocence me liront seuls jusqu'au bout. Je les prie, ceux-là, de faire connaître mon abeille à leurs enfants, s'ils en ont de petits. Je souhaite que ce récit plaise aux jeunes garçons et aux jeunes filles, mais à vrai dire, je n'ose l'espérer. Il est trop frivole pour eux et bon seulement pour les enfants du vieux temps. J'ai une jolie petite voisine de 9 ans dont j'ai examiné l'autre jour la bibliothèque particulière, où j'y ai trouvé beaucoup de livres sur le microscope et les zoophytes, ainsi que plusieurs romans scientifiques. J'ouvris un de ces derniers et je tombai sur ces lignes. La sèche, Sepia officinalis, est un mollusque céphalopode dont le corps contient un organe spongieux à traîne de chyline associée à du carbonate de chaux. Ma jolie petite voisine trouve ce roman très intéressant. Je la supplie, si elle ne veut pas me faire mourir de honte, de ne jamais lire l'histoire d'abeilles. Chapitre 2, où l'on voit ce que la rose blanche annonce à la comtesse de Blanchelande. N'ayant mis sur ses cheveux d'or un chaperon noir brodé de perles et noué à sa taille les cordelières des veuves, la comtesse de Blanchelande entra dans l'oratoire où elle avait coutume de prier chaque jour pour l'âme de son mari, tué en combat singulier par un géant d'Irlande. Ce jour-là, elle vit une rose blanche sur le coussin de son prie-dieu. À cette vue, elle pâlit, son regard se voila, elle renversa la tête et se tordit les mains. Car elle savait que lorsqu'une comtesse de Blanchelande doit mourir, elle trouve une rose blanche sur son prie-dieu. Connaissant par là que son heure était venue de quitter ce monde, où elle avait été en si peu de jours épouse, mère et veuve, elle alla dans la chambre où son fils Georges dormait sous la garde des servantes. Il avait 3 ans. Ses longs cils faisaient une ombre charmante sur ses joues et sa bouche ressemblait à une fleur. En le voyant si petit et si beau, elle se mit à pleurer. « Mon petit enfant, lui dit-elle d'une voix éteinte, mon cher petit enfant, tu ne m'auras pas connu et mon image va s'effacer à jamais de tes 12 yeux. Pourtant, je t'ai nourri de mon lait afin d'être vraiment ta mère. Et j'ai refusé pour l'amour de toi la main des meilleurs chevaliers. Ce disant, elle baisa un médaillon où était son portrait et une boucle de ses cheveux, et elle le passa au cou de son fils. Alors une larme de la mère tomba sur la joue de l'enfant, qui s'agita dans son berceau et se frotta les paupières avec ses petits poings. Mais la comtesse détourna la tête et s'échappa de la chambre. Comment deux yeux qui allaient s'éteindre supporter l'éclat de ces deux yeux adorés où l'esprit commençait à poindre. Elle fit seller un cheval, et suivie de son écuyer Francœur, elle se rendit au château des Clarides. La duchesse des Clarides embrassa la comtesse de Blanchelande. « Ma belle, quelle folle fortune vous amène ?»« Oh, la fortune qui m'amène n'est point bonne, écoutez-moi, ami. » Nous fûmes mariés à peu d'années de distance et nous devînmes veuves par semblable aventure. Car en ce temps de chevalerie, les meilleurs périssent les premiers et il faut être moine pour vivre longtemps. Quand vous devîntes mère, je l'étais depuis 2 ans. Votre fille Abel est belle comme le jour et mon petit Georges est sans méchanceté. Je vous aime et vous m'aimez. Oh, apprenez que j'ai trouvé une rose blanche sur le coussin de mon prie-dieu. Je vais mourir. Je vous laisse mon fils. » La duchesse n'ignorait pas ce que la rose blanche annonce aux dames de Blanchelande. Elle se mit à pleurer et elle promit, au milieu des larmes, d'élever Abeille et Georges comme frères et sœurs et de ne rien donner à l'un sans l'autre que l'autre en eût la moitié. Alors, se tenant embrassées, les deux femmes approchèrent du berceau où, sous de légers rideaux bleus comme le ciel, dormait la petite Abeille qui, sans ouvrir les yeux, agita ses petits bras. Et comme elle écartait les doigts, on voyait en sortir de chaque manche 5 petits rayons roses. Il la défendra, dit la mère de Georges. Oui, elle l'aimera, répondit la mère d'Abeille. Elle l'aimera, répéta une petite voix claire que la duchesse reconnut pour celle d'un esprit logé depuis longtemps sous une pierre du foyer. À son retour au manoir, la dame de Blanchelande distribua ses bijoux à ses femmes, et s'étant fait oindre d'essence parfumée et habillée de ses plus beaux vêtements, afin d'honorer ce corps qui doit ressusciter au jour du jugement dernier, elle se coucha sur son lit et s'endormit pour ne plus s'éveiller. Chapitre 3. Où commencent les amours de Georges de Blanchelande et d'Abeille des Clarides. Contrairement au sort commun, qui est d'avoir plus de bonté et de beauté ou plus de beauté que de bonté, la duchesse des Clarides était aussi bonne que belle, et elle était si belle que pour avoir vu seulement son portrait, des princes la demandaient en mariage. Mais à toutes les demandes, elle répondait « Je n'aurai qu'un mari, parce que je n'ai qu'une âme. » Pourtant, après 5 ans de deuil, elle quitta son long voile et ses vêtements noirs, afin de ne pas gâter la joie de ceux qui l'entouraient, et pour qu'on puisse sourire et s'égayer librement en sa présence. Son duché comprenait une grande surface de terre avec des landes, dont la bruyère couvrait l'étendue désolée, des lacs où les pêcheurs prenaient des poissons dont quelques-uns étaient magiques, et des montagnes qui s'élevaient dans des solitudes horribles au-dessus des régions souterraines habitées par les nains. Elle gouvernait les Clarides par les conseils d'un vieux moine échappé de Constantinople, lequel, ayant vu beaucoup de violence et de perfidie, croyait peu à la sagesse des hommes. Il vivait enfermé dans une tour avec ses oiseaux et ses livres, et de là il remplissait son office de conseiller d'après un petit nombre de maximes. Ses règles étaient ne jamais remettre en vigueur une loi tombée en désuétude. Céder aux vœux des populations de peur des émeutes et y céder le plus lentement possible, parce que dès qu'une réforme est accordée, le public en réclame une autre, et qu'on est renversé pour avoir cédé trop vite, de même que pour avoir résisté trop longtemps. La duchesse se laissait faire, n'entendant rien elle-même à la politique. Elle était compatissante et, ne pouvant estimer tous les hommes, elle plaignait ceux qui avaient le malheur d'être mauvais. Elle aidait les malheureux de toutes les manières, visitant les malades, consolant les veuves et recueillant les pauvres orphelins. Elle élevait sa fille abeille avec une sagesse charmante. Ayant formé cet enfant à n'avoir de plaisir qu'à bien faire, elle ne lui refusait aucun plaisir. Cette excellente femme tint la promesse qu'elle avait faite à la pauvre comtesse de Blanchelande. Elle servit de mère à Georges et ne fit point de différence entre abeille et lui. Ils grandissaient ensemble et Georges trouvait abeille à son goût, bien que trop petite. Un jour, comme ils étaient encore au temps de leur première enfance, il s'approcha d'elle et lui dit « Veux-tu jouer avec moi ?»« Bon, je veux bien, » dit Abeille. « Nous ferons des pâtés avec de la terre, » dit Georges. Et ils en firent. Mais comme Abeille ne faisait pas bien les siens, Georges lui frappa les doigts avec sa pelle. Abeille poussa des cris affreux et l'écuyer Francœur, qui se promenait dans le jardin, dit à son jeune maître « Battre les demoiselles n'est pas le fait d'un comte de Blanchelande, monseigneur !» Georges eut d'abord envie de passer sa pelle à travers le corps de l'écuyer. Mais l'entreprise présentant des difficultés insurmontables, il se résigna à accomplir une action plus aisée, qui fut de se mettre le nez contre un gros arbre et de pleurer abondamment. Pendant ce temps, Abeille prenait soin d'entretenir ses larmes en s'enfonçant les poings dans les yeux. Mais dans son désespoir, elle se frottait le nez contre le tronc d'arbre voisin. Quand la nuit vint envelopper la terre, Abeille et Georges pleuraient encore, chacun devant son arbre. Il fallut que la duchesse des Clarides prit sa fille d'une main et Georges de l'autre pour les ramener au château. Ils avaient les yeux rouges, le nez rouge, les joues luisantes. Ils soupiraient et reniflaient à fendre l'âme. Ils soupèrent de bon appétit, après quoi on les mit chacun dans son lit. Mais ils en sortirent comme de petits fantômes, dès que la chandelle eut été soufflée, et ils s'embrassèrent en chemise de nuit, avec de grands éclats de rire. Ainsi commencèrent les amours d'Abeille et des Clarides et de Georges de Blanchelande. Chapitre 4, qui traite de l'éducation en général et de celle de Georges en particulier. Georges grandit dans le château aux côtés d'Abeille, qu'il nommait sa sœur en manière d'amitié, et bien qu'il sût qu'elle ne l'était pas. Il eut des maîtres en escrime, équitation, natation, gymnastique, danse, vénerie, fauconnerie, paume et généralement en tous les arts. Il avait même un maître d'écriture. C'était un vieux clerc, humble de manière et très fier intérieurement, qui lui enseigna diverses écritures d'autant moins lisibles qu'elles étaient plus belles. Georges prit peu de plaisir et partant peu de profit aux leçons de ce vieux clerc, non plus qu'à celles d'un moine qui professait la grammaire en termes barbares. Georges ne concevait pas qu'on prît de la peine à apprendre une langue qu'on parle naturellement et qu'on nomme maternelle. Il ne se plaisait qu'avec l'écuyer Francœur, qui, ayant beaucoup chevauché par le monde, connaissait les mœurs des hommes et des animaux, décrivait toutes sortes de pays et composait des chansons qu'il ne savait pas écrire. Francœur fut de tous les maîtres de Georges le seul qui lui apprit quelque chose, parce que c'était le seul qui l'aima vraiment et qu'il n'y a de bonnes leçons que celles qui sont données avec amour. Mais les deux porte-lunettes, le maître d'écriture et le maître de grammaire, qui se haïssaient l'un et l'autre de tout leur cœur, se réunirent pourtant tous deux dans une commune haine contre le vieil écuyer qu'ils accusèrent d'ivrognerie. Il est vrai que Francoeur fréquentait un peu trop le cabaret du Pot d'Étain. C'est là qu'il oubliait ses chagrins et qu'il composait ses chansons. Il avait tort, assurément. Homère faisait les vers encore mieux que Francoeur, et Homère ne buvait que l'eau des sources. Quant aux chagrins, tout le monde en a. Et ce qui peut les faire oublier, ce n'est pas le vin qu'on boit. C'est le bonheur qu'on donne aux autres. Mais Francoeur était un vieil homme blanchi sous le harnais, fidèle, plein de mérite, et les deux maîtres d'écriture et de grammaire devaient cacher ses faiblesses au lieu d'en faire à la duchesse un rapport exagéré. Francoeur est un ivrogne, disait le maître d'écriture, et quand il revient de la taverne du Pot d'Étain, il fait en marchant des S sur la route. C'est d'ailleurs la seule lettre qu'il ait jamais tracée, car cet ivrogne est un âne, madame la duchesse. Le maître de grammaire ajoutait « Francoeur chante en titubant des chansons qui pêchent par les règles et ne sont sur aucun modèle. Il ignore la synecdoque, madame la duchesse. » La duchesse avait un dégoût naturel des cuistres et des délateurs. Elle fit ce que chacun de nous fait à sa place. Elle ne les écouta pas d'abord, mais comme ils recommençaient sans cesse leur rapport, elle finit par les croire et résolut d'éloigner Francoeur. Toutefois, pour lui donner un exil honorable, elle l'envoya à Rome chercher la bénédiction du pape. Ce voyage était d'autant plus long pour l'écuyer Francoeur que beaucoup de tavernes hantées par des musiciens sépare le duché des Clarides du siège apostolique. On verra par la suite du récit que la duchesse regretta bientôt d'avoir privé les deux enfants de leur gardien le plus sûr. Chapitre 5, qui dit comment la duchesse mena Abeille et Georges à l'ermitage et la rencontre qu'ils y firent d'une affreuse vieille. Ce matin-là, qui était celui du premier dimanche après Pâques, la duchesse sortit du château sur son grand alezan, ayant à sa gauche Georges de Blanchelande, qui montait un cheval jaillet dont la tête était noire avec une étoile au front, et à sa droite Abeille, qui gouvernait avec des rênes roses son cheval à la robe Isabelle. Ils allaient entendre la messe à l'ermitage. Des soldats armés de lances leur faisaient escorte, et la foule se pressait sur leur passage pour les admirer. Et en vérité, ils étaient bien beaux tous les trois. Sous son voile aux fleurs d'argent et dans son manteau flottant, la duchesse avait un air de majesté charmante, et les perles dont sa coiffure était brodée jetaient un éclat plein de douceur qui convenait à la figure et à l'âme de cette belle personne. Près d'elle, les cheveux flottants et l'œil vif, Georges avait tout à fait bonne mine. Abeille, qui chevauchait de l'autre côté, laissait voir un visage dont les couleurs tendres et pures étaient pour les yeux une délicieuse caresse. Mais rien n'était plus admirable que sa blonde chevelure, qui, ceinte d'un bandeau à trois fleurons d'or, se répandait sur ses épaules comme l'éclatant manteau de sa jeunesse et de sa beauté. Les bonnes gens disaient en la voyant, « voilà une gentille demoiselle !» Le maître tailleur, le vieux Jean, prit son petit-fils Pierre dans les bras pour lui montrer Abeille, et Pierre demanda si elle était vivante ou si elle n'était pas plutôt une image de cire. Il ne concevait pas qu'on pût être si blanche et si mignonne, en appartenant à l'espèce dont il était lui-même le petit Pierre, avec ses bonnes grosses joues à lait et sa chemise bise, lassaisant le dos d'une rustique manière. Tandis que la duchesse recevait les hommages avec bienveillance, les deux enfants laissaient voir le contentement de leur orgueil. Georges par sa rougeur, Abeille par ses sourires. C'est pourquoi la duchesse leur dit « Ces braves gens nous saluent de bon cœur. Georges, qu'en pensez-vous? Et qu'en pensez-vous, Abeille ?»« Qu'ils font bien, » répondit Abeille. « Et que c'est leur devoir, » ajouta Georges. « Mais d'où vient que c'est leur devoir ?» demanda la duchesse. Voyant qu'il ne répondait pas, elle reprit. « Je vais vous le dire. De père en fils, depuis plus de 300 ans, les ducs des Clarides défendent la lance au poing, ces pauvres gens qui leur doivent de pouvoir moissonner les champs qu'ils ont ensemencés. Depuis plus de 300 ans, toutes les duchesses des Clarides filent la laine pour les pauvres, visitent les malades et tiennent les nouveau-nés sur les fonds du baptême. Voilà pourquoi l'on vous salue, mes enfants. » Georges songea. Oh, il faudra protéger les laboureurs. Et Abeille. Il faudra filer de la laine pour les pauvres. Et ainsi, devisant et songeant, il cheminait entre les prairies étoilées de fleurs. Des montagnes bleues dentelaient l'horizon. Georges étendit la main vers l'Orient. « N'est-ce point, demanda-t-il, un grand bouclier d'acier que je vois là-bas ?»« Oh non, c'est plutôt une agrafe d'argent grande comme la lune, » dit Abeille. « Non, non, ce n'est point un bouclier d'acier ni une agrafe d'argent, mes enfants, » répondit la duchesse, « mais un lac qui brille au soleil. La surface des eaux, qui vous semble de loin unie comme un miroir, est agitée d'innombrables lames. Les bords de ce lac, qui vous apparaissent si nets et comme taillés dans le métal, sont en réalité couverts de roseaux, aigrettes légères et d'iris, dont la fleur est comme un regard humain contre des glaives. Chaque matin, une blanche vapeur revêt le lac, qui sous le soleil du midi étincelle comme une armure. Mais il n'en faut point approcher, car il est habité par les ondines qui entraînent les passants dans leur manoir de cristal. » À ce moment, ils entendirent la clochette de l'ermitage. « Descendons, » dit la duchesse, « et allons à pied à la chapelle. Ce n'est ni sur leur éléphant ni sur leur chameau que les rois mages s'approchèrent de la crèche. » Ils entendirent la messe de l'ermite. Une vieille, hideuse et couverte de haillons, s'était agenouillée aux côtés de la duchesse, qui, en sortant de l'église, offrit de l'eau bénite à la vieille et dit « Prenez, ma mère. » Georges s'étonnait. « Ne savez-vous point, dit la duchesse, qu'il faut honorer dans les pauvres les préférés de Jésus-Christ? Une mendiante semblable à celle-ci vous teinte avec le bon duc des Roches Noires sur les bons fonds du baptême, et votre petite sœur Abeille eut pareillement un pauvre pour parrain. » La vieille, qui avait deviné les sentiments du jeune garçon, se pencha vers lui en ricanant et dit « Je vous souhaite, beau prince, de conquérir autant de royaumes que j'en ai perdu. J'ai été reine de l'île des Perles et des Montagnes d'Or. J'avais chaque jour 14 sortes de poissons à ma table, et un aigrillon me portait ma queue. » « Et par quel malheur avez-vous perdu vos îles et vos montagnes, bonne femme ?» demanda la duchesse. « J'ai mécontenté les nains qui m'ont transporté loin de mes états. » « Les nains ont-ils tant de pouvoir ?» demanda Georges. « Mais vivant dans la terre, » répondit la vieille, « ils connaissent les vertus des pierres, travaillent les métaux et découvrent les sources. » La duchesse. « Et que fîtes-vous qui les fâcha, la mère ?» La vieille. Un devin, par une nuit de décembre, me demandait la permission de préparer un grand réveillon dans les cuisines du château, qui, plus vaste qu'une salle capitulaire, était meublée de casseroles, poêles, poêlons, chaudrons, coquemards, fours de campagne, grilles, sauteuses, lèche-frites, cuisinières, poissonnières, bassines, moules à pâtisserie, cruches de cuivre, un nappe d'or et d'argent et de madré, oh, sans compter le tour de broche de fer artistement forgé et la marmite en plein noir suspendue à la crémaillère. Et il me promit de rien égarer ni d'endommager. Ben, je lui refusais pourtant ce qu'il me demandait, et il se retira en murmurant d'obscures menaces. La troisième nuit, qui était celle de Noël, le même nain revint dans la chambre où je dormais. Il était accompagné d'une infinité d'autres qui, m'arrachant de mon lit, me transportèrent en chemise sur une terre inconnue. Ben, dirent-ils en me quittant, voilà le châtiment des riches qui ne veulent point accorder de part de leur trésor au peuple laborieux et doux des nains qui travaillent l'or et font jaillir les sources. Ainsi parla l'aidante et vieille femme, et la duchesse, l'ayant réconfortée de paroles et d'argent, reprit avec les deux enfants le chemin du château. Chapitre 6, qui traite de ce que l'on voit du donjon des Clarides. À peu de temps de là, Abeille et Georges montèrent un jour, sans qu'on les vît, l'escalier du donjon qui s'élevait au milieu du château des Clarides. Parvenus sur la plateforme, ils poussèrent de grands cris et battirent des mains. Leur vue s'étendait sur des coteaux coupés en petits carrés bruns ou verts de champs cultivés. Des bois et des montagnes bleuissaient à l'horizon lointain. « Petite sœur, s'écria Georges, petite sœur, regarde la terre entière. Elle est bien grande, dit Abeille. Mais professeur, dit Georges, m'avait enseigné qu'elle était grande, mais comme dit Gertrude, notre gouverneur, il faut le voir pour le croire. Ils firent le tour de la plateforme. Vois une chose merveilleuse, petit frère, s'écria Abeille. Le château est situé au milieu de la terre et nous, qui sommes sur le donjon qui est au milieu du château, nous nous trouvons au milieu du monde. En effet, l'horizon formait autour des enfants un cercle dont le donjon était le centre. « Oh, nous sommes au milieu du monde, répéta Georges. Puis, tous deux se mirent à songer. « Quel malheur que le monde soit si grand, dit Abeille. On peut s'y perdre et être séparé de ses amis. » Georges haussa les épaules. « Mais quel bonheur que le monde soit si grand. On peut y chercher des aventures. Abeille, je veux, quand je serai grand, conquérir ces montagnes qui sont tout au bout de la terre. C'est là que se lève la lune. Oh, je la saisirai au passage et je te la donnerai, mon abeille. » « C'est cela, dit Abeille, tu me la donneras et je la mettrai dans mes cheveux. » Puis ils s'occupèrent à chercher, comme sur une carte, les endroits qui leur étaient familiers. « Oh, je me reconnais très bien, dit Abeille, qui ne se reconnaissait point du tout. Mais ne devine pas ce que peuvent être toutes ces petites pierres carrées, là, semées sur le coteau. »« Mais des maisons, lui répondit Georges. Ce sont des maisons. » « Ne reconnais-tu pas, petite sœur, la capitale du duché des Clarides ? C'est pourtant une grande ville, et elle a trois rues, dont une est carrossable. Nous la traversâmes la semaine passée pour aller à l'ermitage, tu t'en souviens pas ? Les ruisseaux qui serpentent, c'est la rivière, vois là-bas, le vieux pont de pierre. Le pont sous lequel nous pêchâmes des écrevisses. Celui-là même, oui, et qui porte dans une niche la statue de la femme sans tête. Mais on ne la voit pas d'ici, parce qu'elle est trop petite. Oui, je me la rappelle, et pourquoi n'a-t-elle pas de tête ? Probablement parce qu'elle l'a perdue. Sans dire si cette explication la contentait, Abeille contemplait l'horizon. Petit frère, vois-tu ce qui brille du côté des montagnes bleues? C'est le lac. C'est le lac. Ils se rappelèrent alors ce que la duchesse leur avait dit de ces eaux dangereuses et belles où les ondines avaient leur manoir. Allons-y, dit Abeille. Cette résolution bouleversa Georges, qui, ouvrant une grande bouche, s'écria « Mais la duchesse nous a défendu de sortir seule, et comment irons-nous à ce lac qui est au bout du monde ?»« Ben, comment nous irons, je ne le sais pas, moi, mais tu dois le savoir, toi qui es un homme, et qui es un maître de grammaire. » Georges, piqué, répondit qu'on pouvait être un homme, et même un bel homme, sans savoir tous les chemins du monde. L'abeille prit un petit air dédaigneux, qui le fit rougir jusqu'aux oreilles, et elle dit d'un ton sec « Je n'ai pas promis, moi, de conquérir les montagnes bleues et de décrocher la lune. Je ne sais pas le chemin des lacs, mais je le trouverai bien, moi. » s'écria Georges en s'efforçant de rire. « Vous riez comme un cornichon, monsieur. »« Abeille, les cornichons ne rient ni ne pleurent. » S'il riait, il rirait comme vous, monsieur. J'irai seul au lac, et pendant que je découvrirai les belles eaux qu'habitent les ondines, vous resterez seul au château comme une petite fille. Je vous laisserai mon métier et ma poupée. Vous en aurez grand soin, Georges. Vous en aurez grand soin. » Georges avait de l'amour-propre. Il fut sensible à la honte que lui faisait Abeille. La tête basse, très sombre, il s'écria d'une voix sourde « Oh bien, j'irai au lac !» Chapitre 7, où il est dit comment Abeille et Georges s'en allèrent au lac. Le lendemain, après le dîner de midi, tandis que la duchesse était retirée dans sa chambre, Georges prit Abeille par la main. « Allons !» lui dit-il. « Où ?»« Chut !» Ils descendirent l'escalier et traversèrent les cours. Quand ils eurent passé la poterne, Abeille demanda pour la seconde fois où ils allaient. « Au lac !» répondit résolument Georges. Demoiselle Abeille ouvrit une grande bouche et resta coite. Aller si loin sans permission, en souliers de satin, car elle avait des souliers de satin. Était-ce bien raisonnable? Mais il faut y aller, il n'est pas nécessaire d'être raisonnable. Telle fut la sublime réponse de Georges à Abeille. Elle lui avait fait honte et maintenant elle faisait l'étonner. C'est lui, cette fois, qui la renvoyait dédaigneusement à sa poupée. Les filles poussent aux aventures et s'y dérobent, filent le vilain caractère, dès qu'elle reste, il irait seul. Elle lui prit le bras, il la repoussa. Elle se suspendit au cou de son frère. Petit frère, disait-elle en sanglotant, je te suivrai. Il se laissa toucher par un si beau repentir. Viens, dit-il, mais ne passons pas par la ville. Car on pourrait nous voir. Il vaut mieux suivre les remparts et gagner la grande route par le chemin de traverse. » Et ils allèrent en se tenant par la main. Georges expliquait le plan qu'il avait arrêté. « Nous suivrons, disait-il, la route que nous avons prise pour aller à l'ermitage. Nous ne manquerons pas d'apercevoir le lac comme nous l'avons aperçu l'autre fois, et alors nous nous y rendrons à travers champs. En ligne d'abeille. » En ligne d'abeille est une agreste et jolie façon de dire en ligne droite. Mais ils se mirent à rire à cause du nom de la jeune fille qui venait bizarrement dans ce propos. Abeille cueillit des fleurs au bord du fossé. C'étaient des fleurs de mauve, des bouillons blancs, des asters et des chrysanthèmes dont elle fit un bouquet. Dans ses petites mains, les fleurs se fanaient à vue d'œil, et elles étaient pitoyables à voir, quand Abeille passa le vieux pont de pierre. Comme elle ne savait que faire de son bouquet, elle eut l'idée de le jeter à l'eau pour le rafraîchir, mais elle aima mieux le donner à la femme sans tête. Elle pria à Georges de la soulever dans ses bras pour être assez grande, et elle déposa sa brassée de fleurs agrestes entre les mains jointes de la vieille figure de pierre. Quand elle fut loin, elle détourna la tête et vit une colombe sur l'épaule de la statue. Ils marchaient depuis quelque temps, et Abeille dit « J'ai soif. »« Moi aussi, » dit Georges, « mais la rivière est loin derrière nous, et je ne vois ni ruisseau ni fontaine. »« Mais le soleil est si ardent qu'il les aura tous bu, mais qu'allons-nous faire ?» Ainsi ils parlaient et se lamentaient, quand ils virent venir une paysanne qui portait des fruits dans un panier. « Des cerises !» s'écria Georges. « Oh, quel malheur que je n'ai pas d'argent pour en acheter !»« Mais j'ai de l'argent, moi !» dit Abeille. Elle tira de sa poche une bourse garnie de 5 pièces d'or et s'adressant à la paysanne, « Bonne femme, dit-elle, voulez-vous me donner autant de cerises que ma robe en pourra tenir ?» Ce disant, elle soulevait à deux mains le bord de sa jupe. La paysanne y jeta 2 ou 3 poignées de cerises. Abeille prit d'une seule main sa jupe retroussée, tendit de l'autre une pièce d'or à la femme et dit « Ça c'est cela ?» La paysanne saisit cette pièce d'or qui eut payé largement toutes les cerises du panier avec l'arbre qui les avait portées et le clos où cet arbre était planté. Et la rusée répondit « Bon, je n'en demande pas davantage pour vous obliger, ma petite princesse. » Alors, reprit Abeille, « mettez d'autres cerises dans le chapeau de mon frère et vous aurez une autre pièce d'or. » Ce fut fait. La paysanne continua son chemin en se demandant dans quel bas de laine, au fond de quel paillasse, elle cacherait ses 2 pièces d'or. Et les 2 enfants suivirent leur route, mangeant les cerises et jetant les noyaux à droite et à gauche. Georges chercha les cerises qui se tenaient 2 à 2 par la queue pour en faire des pendants d'oreilles à sa sœur, et il riait de voir ses beaux fruits jumeaux à la chair vermeille se balancer sur la joue d'Abeille. Un caillou arrêta leur marche joyeuse. Il s'était logé dans le soulier d'Abeille qui se mit à clocher. À chaque saut qu'elle faisait, ses boucles blondes s'agitaient sur ses joues, et elle alla ainsi, clochant, s'asseoir sur le talus de la route. Là, son frère, agenouillé à ses pieds, retira le soulier de satin. Il le secoua, et un petit caillou blanc sortit. Alors, regardant ses pieds, elle dit « Petit frère, quand nous retournerons au lac, nous mettrons des bottes. » Le soleil s'inclinait déjà dans le firmament radieux. Un souffle de brise caressa les joues et le cou des jeunes voyageurs, qui, rafraîchis et ranimés, poursuivirent hardiment leur voyage. Pour mieux marcher, ils chantaient en se tenant par la main, et ils riaient de voir devant eux s'agiter leurs 2 ombres unies. Ils chantaient « Marianne s'en allant au moulin pour y faire moudre son grain. Elle monta sur son âne, ma petite mamselle Marianne. Elle monta sur son âne, Martin, pour aller au moulin. » Mais Abeille s'arrête. Elle s'écrie « Oh, j'ai perdu mon soulier de satin !» Et cela était comme elle le disait. Le petit soulier dont les cordons de soie s'étaient relâchés dans sa marche gisait tout poudreux sur la route. Alors elle regarda derrière elle et voyant les tours du château des Clarides effacées dans la brume lointaine, Elle sentit son cœur se serrer et des larmes lui vinrent aux yeux. Les loups nous mangeront, dit-elle, et notre mère ne nous verra plus, et elle mourra de chagrin. Mais Georges lui remit son soulier et lui dit: quand la cloche du château sonnera le souper, nous serons de retour aux Clarides, et en avant! Le meunier qui la voit venir ne peut s'empêcher de lui dire: attachez-la votre âne, ma petite mamselle Marianne, attachez-la votre âne, Martin, qui vous mène au moulin. Oh, le lac, abeille, vois, le lac, le lac, le lac! Oh, oui, Georges, le lac! Georges cria « Hurrah !» et jeta son chapeau en l'air. Abeille avait trop de retenue pour jeter semblablement sa coiffe, mais autant son soulier qui ne tenait guère, elle le lança par-dessus sa tête en signe de réjouissance. Il était là, le lac, au fond de la vallée, dont les pentes circulaires faisaient deux ondes argentées, une grande coupe de feuillage et de fleurs. Il était là, tranquille et pur, et l'on voyait un frisson passer sur la verdure encore confuse de ses rives. Mais les deux enfants ne découvraient dans la futaie aucun chemin qui menât à ces belles eaux. Tandis qu'ils en cherchaient un, ils eurent les mollets mordus par des oies qu'une petite fille vêtue d'une peau de mouton suivait avec sa gaule. Georges lui demanda comment elle se nommait. Gilberte? Eh bien, Gilberte, comment va-t-on au lac? On n'y va pas. Pourquoi? Parce que. Mais si on y allait? Si on y allait, il y aurait un chemin et on prendrait ce chemin. Oh, il n'y avait rien à répondre à la gardeuse d'oie. « Allons, dit Georges, nous trouverons sans doute plus loin un sentier sous bois. »« Nous y cueillerons des noisettes, dit Abeille, et nous les mangerons, car j'ai faim. Oh, »« Il faudra, quand nous retournerons au lac, emporter une valise pleine de choses bonnes à manger. »« Georges, nous ferons ce que tu dis, petite sœur. J'approuve à présent l'écuyer Francoeur, qui, lorsqu'il partit pour Rome, emporta un jambon pour la faim et une dame Jeanne pour la soif. » « Mais attends-nous, car il me semble que le jour s'avance, quoique je ne sache pas l'heure. » Les bergères la savent en regardant le soleil, dit Abeille. Je ne suis pas bergère. Il me semble pourtant que le soleil qui était sur notre tête quand nous partîmes est maintenant là-bas, loin derrière la ville et le château des Clarides. Il faudrait savoir s'il en est ainsi tous les jours. Est-ce que cela signifie? Tandis qu'ils observaient ainsi le soleil, un nuage de poussière se leva sur la route, et ils aperçurent des cavaliers qui s'avançaient à bride abattue et dont les armes brillaient. Les enfants eurent grand-peur et s'allèrent cacher dans les fourrés. « Ce sont des voleurs, ou plutôt des ogres, » pensaient-ils. En réalité, c'étaient des gardes que la duchesse des Clarides avait envoyés à la recherche des deux petits aventureux. Les deux petits aventureux trouvèrent dans le fourré un sentier étroit, qui n'était point un sentier d'amoureux, car on y pouvait marcher deux de front, en se tenant par la main à la façon des fiancés. Aussi n'y trouvait-on point l'empreinte de pas humains. On y voyait seulement le creux laissé par une infinité de petits pieds fourchus. Ce sont des pieds de diablotin, dit Abeille. Ou de biche, dit Georges. La chose n'a point été éclaircie, mais ce qu'il y a de certain, c'est que le sentier descendait en pente douce jusqu'au bord du lac, qui apparut aux deux enfants dans sa languissante et silencieuse beauté. Des saules arrondissaient sur les bords leur feuillage tendre. Des roseaux balançaient sur les eaux leurs glaives souples et leurs délicats panaches. Ils formaient des îles frissonnantes autour desquelles les nénuphars étalaient leurs grandes feuilles en cœur et leurs fleurs à la chair blanche. Sur ces îles fleuries, les demoiselles au corsage d'émeraude ou de saphir et aux ailes de flamme traçait d'un vol strident des courbes brusquement brisées. Et les deux enfants trempaient avec délice leurs pieds brûlants dans le gravier humide où couraient la presse touffue et la nacette au long dard. L'accord leur jetait les parfums de son humble tige. Autour d'eux, le plantain déroulait sa dentelle au bord des eaux dormantes, que l'épilobe étoilait de ses fleurs violettes.